Radio Foot International avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers Maurice et Paris.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bienvenue dans le studio de Radio Foot International sur RFI pour évoquer tout ce qui se passe dans le monde du football. Les championnats se terminent, mais l'actualité ne manque pas. Et aujourd'hui, nous commencerons par évoquer le Real Madrid, une 12e défaite pour refermer la saison, une saison ratée, à oublier. Une saison qui a donc vu le Real et ses supporters, eux, se liquéfier, on va dire, à chaque match, qui ont vu défiler 3 entraîneurs sur le banc et surtout vu leur triple champion d'Europe se faire sortir de la Ligue des Champions dès les 8e de finale. Zinedine Zidane sera-t-il le Zorro des Merengues ? Peut-il déjà rebâtir une équipe de champions ? Une équipe avec ou sans Kylian Mbappé. Depuis dimanche soir, les suppositions, les paris, les élucubrations vont bon train autour du prodige français. Où jouera-t-il l'année prochaine? Le PSG peut-il le retenir? Veut-il le retenir, Dominique Sévrac?
Bonjour Annie, je vous dirai tout.
J'espère. Tout le monde attend que vous nous disiez tout. Notre confrère du Parisien, toujours au chevet du PSG. La fausse retraite d'Assamoah Gyan, le grand joueur du Ghana, est finalement revenu sur sa décision de prendre sa retraite à la veille de la CAN en Égypte. Caprice de star, de black star, ou bien faut-il respecter le timing des grands frères qui veulent partir à leur manière, en Afrique plus qu'ailleurs? Vous nous le direz peut-être, Hervé Penaud.
Je préviens les auditeurs, je dirai tout aujourd'hui.
Bonjour Hervé. Bonjour Chérif Guémour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous nous direz tout, vous aussi, hein, sur tous ces sujets.
Sur Rudy Garcia, sur le Ghana, les Blackstars.
Surtout. Bonjour Eric Chorin.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Moi je dirai rien.
Hein. Vous direz rien. On vous posera des questions alors. Quand même. Radio Foot, c'est parti.
J'ai décidé de partir et j'ai proposé cette solution à mon président, qu'il a accepté. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Si j'écoutais simplement ma détermination et mon caractère, je resterais. Mais par contre, si j'écoute un peu le bon sens et la raison, je pense que c'est bien d'arrêter l'aventure maintenant. Ça a été un grand plaisir d'entraîner l'Olympique de Marseille. Maintenant, effectivement, j'assume entièrement ma part de responsabilité dans cet échec de ne pas avoir su conduire l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions.
Une déclaration qui met donc un point final à un faux suspense. Rudy Garcia supervisera son dernier match au Vélodrome vendredi entre l'OM et Montpellier. Une fin mélancolique pour l'entraîneur de l'Olympique de Marseille après une saison très compliquée qui a suivi une épopée européenne avec cette finale de Ligue Europa il y a à peine un an. Le départ de Rudy Garcia, alors c'est triste et logique à la fois, sans doute. Que veut-il dire peut-être aussi en disant le bon sens et la raison me disent qu'il vaut mieux partir, Dominique?
Mais avant de vous répondre, Annie, je suis très naïf, vous savez, vous me connaissez un petit peu. Je suis très naïf, il a dit j'ai décidé de partir, c'est-à-dire que donc sans indemnité, sans rien, il s'en va de lui-même.
Il n'a pas dit sans indemnité, il a dit j'ai décidé de partir.
Ah bah quand on décide de partir, quand si vous quittez votre entreprise...
Alors nos confrères disent qu'il y aura des indemnités.
Ah d'accord. Donc il a même dans sa déclaration finale, il aura un petit mensonge. D'accord, il va partir avec un gros chèque de 10 millions d'euros. Alors, qu'est-ce
ça
qu'il voulait...
Il y en a qui partent avec des plus gros chèques que ça, du PSG notamment.
Oui, d'accord, mais c'est... Oui, mais alors eux, ils se font virer, eux au moins c'est clair. Et ils viennent de prolonger en plus, si vous pensez à Laurent Blanc. Alors pour répondre à votre question, le contexte était quand même un peu vicié là.
Je parlais de faux suspense.
Alors déjà c'est un secret de polichinelle, mais quand vous, la question c'était sur la raison, le comment.
Oui, il dit le bon sens et la raison disent que...
Vous avez une ville contre vous, des supporters contre vous, une presse un petit peu contre vous, pas toute, mais en bonne partie qui s'est quand même, au fil des ans, les rapports se sont distendus avec Rudy Garcia, parce que c'est quelqu'un qui a plutôt un bon rapport avec les journalistes. En général, vous avez une présidence qui prend ses distances, donc évidemment que vous pouvez plus travailler dans ce contexte-là. Et puis il y a un constat d'échec, et comme il l'a dit, enfin, parce que parfois il fait beaucoup de communication, il s'englobe rarement dans les échecs, c'est souvent la faute des joueurs quand ils perdent.
Et des arbitres.
Et c'est souvent grâce à lui quand il gagne. Là, il dit j'assume l'entière responsabilité de l'échec de ne pas avoir qualifié l'OM. Donc il y a aussi ça, quand vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, il faut aussi aller voir ailleurs. Il a fait combien? 2 ans et demi?
Oui.
Et ben c'est le bon timing. À l'OM, c'est déjà pas mal. Hein.
Pas mal.
C'est pas mal. Shérif, c'était attendu, disons. C'est peut-être une mauvaise récompense. Son bilan est pas catastrophique sur les derniers mois. Oui, mais sur les deux saisons et demie, non.
Bon, déjà pour cette saison, on a laissé traîner en fait la crise date depuis l'hiver avec le décrochage qu'il y a eu, c'est-à-dire une élimination précoce en Europa League qui
a
complètement.
C'est vrai qu'on se demandait s'il allait tenir.
Ça a quand même enterré pas mal de l'éclat de l'épopée de l'année dernière dans la même compétition. Il y a un constat simple, hein, c'est que de toute façon il tenait plus le groupe. Le groupe ne répondait plus parce que quand on regarde l'équipe type telle qu'elle est de l'OM en début de saison,
il y en a pas eu.
Très bonne remarque. Mais en plus, sur le papier.
Le dernier match, c'était la 41e 11 de Rudy Garcia sur la saison.
Sur le papier, l'effectif permettait quand même pas mal d'espoir. Mais même de toute façon, même s'il aura accroché la 3e, voire la 4e place, de toute façon, avec le nombre de défaites, avec un groupe qui ne répond plus, c'était plus jouable. Donc déjà, quand on a l'hostilité, comme tu l'as dit, du public, et puis en gros, le micro-poste marseillais, en plus, quand on n'a plus la direction, mais c'est surtout déjà. Les joueurs qui ne répondaient plus, les commandes ne répondaient plus sur le terrain. Donc,
genre qu'il a choisi quasiment tous un par un. Hein.
Alors là, on va parler. Je sais pas si on rentre dans les détails pour le recrutement calamiteux. Après, bon, là, c'est la porte ouverte à l'échec qu'il a lui-même mis en place pour cette saison.
En tout cas, il y a quand même un des joueurs, et c'est le capitaine qui a tenu à rendre hommage à l'entraîneur qui s'en va. C'est Dimitri Payet.
C'est plus facile de changer un entraîneur que 27 ou 28 joueurs. Donc après, bien évidemment, qu'on a tous notre part de responsabilité dans ce qui vient de se passer. Simplement le remercier. C'est vrai que si je dois tirer un bilan de saison que j'ai passé depuis mon arrivée ici, voilà, il y a eu des hauts et des bas, du très haut même de temps en temps. Donc je pense que je suis plutôt quelqu'un qui retient le positif. Donc on va pas oublier que voilà, qu'on a été jusqu'en finale de cette Coupe d'Europe l'année dernière et qu'on a vécu des moments vraiment très forts ensemble. Donc voilà, lui tirer mon chapeau et lui souhaiter bon vent. C'est vrai que je pense que le choix du président de lui avoir fait confiance pour débuter ce projet était le bon choix.
C'était le bon choix, comme dit Dimitri Payet, de lui avoir confié ce premier mandat d'entraîneur pour le projet de Franck McCourt, Hervé.
Alors, le problème, le bon choix, ça veut dire qu'on va juger au
début,
final.
Oui.
Mais avant, oui, moi je trouve que c'est très cohérent, parce que c'est l'entraîneur, c'est peut-être l'un des top 3, 4 meilleurs entraîneurs français. C'est quelqu'un qui revenait dans son pays après avoir réussi une belle campagne d'Italie. Alors ça s'était mal terminé, mais vous savez, ça se termine toujours mal.
Comme pour Napoléon.
Voilà, exactement. Ça se termine toujours mal, de toute façon, dans les clubs. À Lille, il avait fait du bon boulot. À Dijon, il avait fait du bon boulot. Au Mans, il avait fait du bon boulot. Et puis, il a une chose pour lui, c'est qu'il a une forme de charisme que je l'ai toujours trouvé, même jusqu'à la fin de son aventure marseillaise.
Même aujourd'hui,
je trouve qu'il a quelque chose et il dégage quelque chose. Le problème, c'est quand les résultats sont pas là, après, vous pouvez avoir toutes les bonnes idées du monde, hein, et ben, force est de constater qu'au final, c'est quand même plutôt un échec, son passage, et encore, je dirais un échec, il y a rien d'autre à dire, son passage sur le banc marseillais, parce que la finale en Ligue Europa, pour moi, elle peut pas atténuer tout ce qui s'est passé autour. C'est-à-dire que c'est la Ligue des Champions, c'est un capital en termes d'argent. De toute façon, pour McCourt, il fallait cette Ligue des Champions, ils l'ont pas eu, ils ont déjà des problèmes financiers avec le fair play financier justement européen, donc je sais pas comment va être l'avenir de ce club. Donc oui, on peut parler d'erreur au final, mais je pense que au moment où il a été pris, vous verrez peu de confrères et peu de gens dans le milieu qui seraient dit, ah bah tiens, quelle erreur de prendre Garcia. Non, moi je pense que c'est un bon choix.
Hervé, c'est un des 3-4 meilleurs entraîneurs français. Mmh. Donc il y a Zidane, il y a Deschamps, il y a Laurent Blanc, Wenger, Puel.
Non, Wenger, c'est un peu.
Ah bon, d'accord.
Mais alors, il est au moins.
Il y a Deschamps, il y a Laurent Blanc, ouais. Il y a Galtier, qui a réussi partout où il est passé. Mais il y a Claude Puel, et alors il est où, Rudy Garcia?
Galtier, par exemple, tu peux pas dire quand même que Galtier a fait autant que Rudy Garcia sur un banc.
Galtier. Ce qu'il a fait comme entraîneur principal à Saint-Etienne, adjoint à Lyon, entraîneur principal à Lille, après Bielsa,
il a fait beaucoup moins.
Il a fait beaucoup plus progresser ses équipes.
Oh non, tu peux pas dire ça. Non,
Garcia était champion de France.
Champion de France,
doublé. Avec une équipe constituée par Puel. On le dit jamais assez. 90%
d'équipe. Bah oui. Non, mais ça c'est l'histoire
des trucs travail de Puel.
Non, mais c'est l'histoire des équipes, ça. Qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un. On va me dire Zidane, il a eu ses titres, mais avec finalement. Les joueurs de ses prédécesseurs.
Ouais, non, mais ça va être dur de déterminer la place de Rudy Garcia dans le palmarès des entraîneurs, mais de toute façon,
Mais il fait partie des très bons entraîneurs français.
Oui, des 100 premiers. Oui.
Non, on peut pas dire ça. Et moi, le petit bémol que j'apporterai quand même, c'est qu'effectivement, l'entraîneur a une part de responsabilité dans les mauvais résultats d'une équipe, évidemment, hein, mais ça reste pas un magicien quand même. Et je pense qu'il faut jamais occulter, parce que pour moi, ce sont quand même des joueurs qui sont sur le terrain. Il ne faut faut jamais.
Mais moi, je vais aller plus loin que toi.
Joueurs, c'est que, effectivement, son recrutement, alors, le coup, mais par contre, faut pas lui donner les clés pour recruter. Ça, c'est une erreur majeure. Ça, là-dessus, je suis 100% d'accord. En revanche, qui pouvait imaginer que Steve Mandanda, Rami, Payet, c'est-à-dire les vrais quatre de l'équipe, ceux qui l'année précédente avaient été bons, et même Thauvin, tombe à ce niveau-là. Et là, c'est plus une question d'entraîneur. Parce que alors, si vous m'expliquez que c'est l'entraîneur...
Est-ce que c'est une question de Coupe du Monde?
C'est plus profond que ça.
Qui pouvait imaginer qu'on prenne Strootman, 28 ans, avec sans genou, à 500 000 euros par mois?
Je te dis que c'est une erreur.
Non, mais c'est un poste décisif.
Non, mais plus profondément.
Qui pouvait imaginer qu'en disant que Mitroglou et Germain, j'ai pas besoin de grand attaquant. Germain peut jouer qu'à deux, et Mitroglou...
Non, mais ça, c'est de la com. On n'a pas besoin de grand attaquant. Ils ont tout fait pour avoir Balotelli.
Non, mais tout ça...
Je parle de la première année, moi.
Non, mais tout ça, c'est des problèmes un peu périphériques. Le vrai problème de base, c'est le fameux Champion Project. C'est ça le vrai problème
ça,
à la base.
Lui.
Non, mais
ça, c'est ma courte.
Ouais, mais
Marcotero.
Oui, d'accord.
Mais c'est la com des boss.
Non, mais ce projet-là, parce que ça met aussi la pression sur les. C'est toujours le même truc. C'est toujours
ce sur le groupe.
Mais non, j'ai pas cru. Bah, voilà, on y arrive. Alors, les supporters, par contre, ils y croient. Supporters, ils croient.
On les dupe pas, les gens.
Écoute.
Ils y ont cru.
La Ligue des Champions. Si, la Ligue des Champions pour eux. Non, mais c'est à la limite, on peut après extrapoler sur Saint-Etienne. On est toujours, mais tous les autres clubs français aussi qui sont obnubilés maintenant par la Coupe d'Europe en général et la Ligue des Champions en particulier. Le projet, je veux dire, quelque part, Rudy Garcia est aussi un peu victime du projet qu'on a mis en place, qui n'est pas tenable, qui n'est pas réaliste, qui est trop prématuré, et à l'arrivée, ça ne peut faire que de la casse.
Parce que tu es à Marseille. Parce que je regrette. Moi, je pense quand même que ce qu'a fait McCourt, il faut pas l'oublier. Parce que McCourt, il a quand même investi un paquet d'argent dans ce club-là.
Oui, mais ce qu'on voit, ils ont acheté des joueurs de très haut niveau. 200-250 millions, c'est pas les 500 millions, PSG.
Non, mais
en Ligue des Champions. Non,
mais quand on parle de Ligue des Champions.
Non, mais moi, je parlais par rapport à la France. Il faut bien se rendre compte que quand McCourt est arrivé, quand même, les joueurs qui sont venus, c'est Payet. C'est pas n'importe quoi en France, Payet. Steve Mandanda, c'est pas n'importe quoi. Thauvin, le faire revenir, c'est pas n'importe quoi. Luis Gustavo, c'est pas n'importe quoi. Vous avez
il y a eu des bons choix aussi.
Non, en dehors des bons choix, c'est-à-dire
qu'il y a eu un vrai
projet pour que ce club atteigne les trois premières places du championnat. Ça, c'est une réalité. Après, ça a pas fonctionné. Pas fonctionné comme prévu. Parce que Marseille, c'est beaucoup plus dur qu'ailleurs, mais vous n'avez pas comparé l'effectif de Saint-Etienne et de Marseille. Marseille, ils ont un effectif largement supérieur.
Mais pourtant,
c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup, beaucoup plus dur d'être à Marseille, à mon avis, que d'être à Saint-Etienne.
Bah oui.
C'est beaucoup plus compliqué. Et vous ne pouvez pas vous attendre à ce que des cadres de l'équipe explosent à
mais
ce point-là.
On ne s'expose pas à un projet Champions Project sans avoir construit. Enfin, ces genres de projets, c'est faisable avec des clubs qui vont se structurer, qui vont prendre le temps.
Mais t'es obligé de le dire.
Pas Marseille.
C'est la même erreur de com que le Qatar qui arrive au PSG en 2011 et qui dit on est là pour gagner la Ligue des Champions en 5 ans.
On est parfaitement d'accord.
Mais ça, c'est des erreurs de com qui vont leur coller au bas comme le sparadrap du capitaine Haddock.
Merci.
Une question, messieurs, qu'est-ce qu'il laisse quand même qu'on pourra retenir pour la saison prochaine? Est-ce qu'il y a des joueurs quand même à racheter là dans tout ça? Parce que les cadres ont déçu. Ouais. Est-ce qu'il y a des joueurs qui se sont révélés?
Par exemple, pour un joueur comme Adil Rami, il n'y a pas de Coupe du Monde cette année. Donc, je pense qu'aussi il a été victime de ça. Le petit Camara. Le petit Maxime Lopez, Morgan Sanson, c'est un bon joueur. Mm-hmm. Valère Germain, ça reste un super attaquant s'il y en a un deuxième avec lui.
Non, mais là, on parle de Marseille.
Mais Payet,
aucun de ces joueurs n'aurait eu sa place avec l'OM de Deschamps, encore moins avec l'OM de Goethals. Non, mais là,
mais ça, c'est normal. Il n'y a aucun des Lyonnais aujourd'hui qui aurait eu sa place au début des années 2000.
Alors, on ne parle pas de Champions Project, on ne parle pas de Champions League.
Mais tu peux pas, quand tu arrives sur un projet comme ça, expliquer aux gens, finalement, j'ai un super projet, on fera 10e.
En tout cas, ce sera un autre débat de savoir qui pourrait succéder à Rudy Garcia, mais il faudra que le candidat potentiel à ce poste, sache que c'est plus dur qu'ailleurs, comme vous l'avez dit, et même qu'il écoute un peu ce refrain de Robert Mayol.
Si tu viens au stade Vélodrome, n'encourage pas les visiteurs. Ou bien sûr on t'enverra des fleurs. On veut bien, pour te prouver qu'on t'aime, te faire le plus beau des cadeaux. Un blason aux couleurs de l'OM que tu pourras coller sur l'auto. Si si jamais tu cherches un coin tranquille.
Ah bah c'est beau, il y a quelle belle musique. Ouais, ouais, ouais. Moi j'ai connu les Beatles, c'est maintenant il y a Jacques Mayol.
On va finir à la Timone, hein. Timone c'est l'hôpital qui est à côté de
quartier du Nord, il faut pas finir. Vous avez bien écouté les paroles, hein, Dominique. Oui. Ouais. Bon voilà, un petit avertissement pour celui qui voudra succéder.
Et il faut que Marseille Annie remonte parce que c'est une place forte du football français et que sans ça, Jacques Mayol.
Quand même.
Mais oui, je le dis, un Parisien vous dit ça parce que sans mes classiques déjà.
Pas.
Bah moi c'est les deux matchs que j'attends le plus de l'année, c'est quand même le PSG Marseille.
Oui, et puis quand vous allez au stade Vélodrome, même si c'est un match contre une autre équipe de Ligue 1.
C'est génial, Marseille, c'est génial.
Il se passe quelque chose dans le stade, Dominique. Vraiment.
Et oui. Vous rendez compte que même pour les certains candidats au poste d'entraîneur qui ont là un peu la tripe formatrice comme un mec comme Claude Puel, par exemple, il peut même pas s'appuyer sur le centre de formation. Donc ça va être encore entraîneur à poigne, un projet sur allez, deux ans et demi. On construit pas à Marseille. Donc,
On verra. Ça sera un autre débat. Pour l'instant, prenons la direction de l'Espagne.
Tomé la décision de ne pas suivre le prochain año le cargo d'entraîneur du Real Madrid.
J'ai pris la décision de ne pas continuer l'année prochaine comme entraîneur du Real Madrid.
L'entraîneur du Real Madrid, Julen Lopetegui.
Gracias, presidente. Muchas gracias, Real Madrid, pour la confiance que m'avez brindado.
Rakitic, ça va aller très très vite avec Jordi Alba qui prend l'ascendant. Jordi Alba, maintenant dans la surface, il attend. C'est bien joué, Coutinho. Et le premier but déjà pour le FC Barcelone. Le Real est balayé. Lopetegui, sans doute avec.
Avec Santiago Solari comme entraîneur, on retrouve l'excellent Cucurella au premier poteau. Et maintenant Kike Garcia. 1, 2, 3-0 maintenant. Au speaker de parler.
El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane.
Yo creo que como decía el Presi,
estoy
muy feliz de volver a casa.
Je suis très content de rentrer à la maison comme l'a dit le président.
Avec Guardado, le centre il est bon, Lorraine, le but pour le Real Betis au Bernabéu. Le Real Betis pour le dernier match de la saison signe un succès sans doute de prestige sur le terrain du Real, sur le terrain de Zinedine Zidane. C'est la fin du calvaire pour le Real Madrid, la fin de cette saison.
Voilà, pour vous rafraîchir la mémoire à tout ça, un petit résumé signé David Brockway. Parce que, eh bien, pour le Real Madrid, vous l'avez entendu, c'était un chemin de croix que cette saison, une saison qui donc avait si mal commencé. On se souvient non seulement du départ surprise de Zizou, mais cette désignation de Lopetegui, alors que l'équipe d'Espagne, avec lui alors sélectionneur, était en Russie. Bref, tout avait mal commencé. Trois entraîneurs, et puis, eh bien, 12 défaites en Liga, 18 sur la saison, et une troisième place, si loin du premier, si loin des Barcelonais. Pierre Chaperon, bonjour, buenas tardes.
Buenas tardes, quelle belle saison, quelle belle saison.
En Espagne, on dirait un desastre, non?
Un fracasso même, oui. Un fracasso.
C'est à peu près synonyme.
C'est à peu près synonyme, c'est encore pire, c'est vraiment la saison à oublier, en effet.
Alors Pierre, cette saison, c'était vraiment le calvaire peut-être pour les spectateurs. On a vu que Santiago Bernabéu, chaque week-end, recevait moins de spectateurs.
Oui, entre 50 et 65 000 personnes sur les matchs, hormis bien sûr le derby de Madrid, le classico, les classicos même, le Real Roma ou Ajax Real. Là, ils ont fait le plein. Pour le reste, il n'y avait pas grand monde. Faut dire que on n'avait pas une grande envie certainement de venir au Real Madrid, au Bernabéu en tout cas. 12 défaites cette saison en championnat, c'est une première depuis 1999, 68 points de marqué, c'est le plus petit total en Liga depuis 2002. Et sur le plan du jeu, pour avoir vu les 26-27 matchs qu'il y a eu à Bernabéu, il y en a qu'un qui a vraiment retenu mon attention, c'est le Real Roma au mois de septembre, 3-0 pour le Real. Et quelque chose de symptomatique, Annie, le stade cette année s'est enthousiasmé pour un petit jeune, 18 ans, un appareil dentaire, Vinicius, qui n'avait rien prouvé avant d'arriver, enfin qui n'avait pas prouvé grand chose avant d'arriver à Madrid, c'est forcément symptomatique qu'il y avait un souci.
Il y avait quand même aussi Karim Benzema qui a marqué un certain nombre de buts, qui a assuré ou sauvé quelques matchs et quelques situations.
Oui, il a sauvé. Et il a sauvé vraiment les apparences. Il a pris en compte le jeu du Real Madrid. Il a essayé de porter vers le haut ce club. D'ailleurs, il a été élu joueur de l'année du Real Madrid il y a quelques jours. Mais après ça, il y a beaucoup de joueurs qui doivent se remettre en question.
Voilà, Pierre, parce que justement, on parlait tout à l'heure, on évoquait Marseille. Là aussi, il y a plein de joueurs qui cette année n'étaient pas vraiment non plus au rendez-vous. On pense à Marcelo, le Brésilien, même Varane, le champion du monde, qui a été un peu à côté de la plaque certains matchs. Et puis Isco ou Asensio. Voilà.
Modric, il a été en panne jusqu'à décembre. Il a reçu le Ballon d'Or et on a senti que ça lui avait fait du bien. Entre décembre et mars, ça allait mieux. Mais après, Isco, il a été mis au placard par Solari, donc dès le mois de novembre, jusqu'au retour de Zidane. Donc de novembre à mars, on n'a presque pas vu Isco. Marcelo, vous en parliez, il était en surpoids et plus du tout dans le coup physiquement, même sur la fin de saison. Il a fait un match il y a 3 semaines contre le Rayo Vallecano, horrible. Il est complètement à la rue physiquement. Il laisse passer tout le monde. Bale a été blessé, mais ça c'est presque une habitude. Et en plus, il n'y a pas de feeling entre Bale et Zidane. Ouais. Asensio a perdu son football. Il est plus du tout dans son football. Il va falloir qu'il revienne à penser football comme on doit le penser dans un grand club. Et puis il y a aussi le recrutement qui a été raté avec un Mariano qui est une énigme de venir ici. Courtois qui a été mis en balance avec Keylor Navas. Je sais qu'il a bien réussi.
Pierre, comme par hasard, les deux joueurs qui ont réussi, c'est deux joueurs qui n'ont pas fait la Coupe du Monde, Vinicius et Benzema. Comme par hasard.
Oui, mais il y a toujours ce gros problème mais qu'on voit dans tous les clubs où les joueurs ont du mal à redémarrer après une Coupe du Monde. En plus, elle est ratée.
Moi, j'en veux pas à un club qui a gagné 4 des 5 dernières Ligues des Champions, quoi.
Oui, mais les supporters ont la mémoire très très courte. Tout est remis à zéro dès le mois d'août.
C'est un Parisien qui vous parlait, pour ça. Dominique, c'est quand même surprenant qu'un club comme le Real, tout d'un coup, alors on a vu les événements, Cristiano Ronaldo qui s'en va, puis Zidane qui s'en va, et puis ses entraîneurs qui se succèdent, mais du coup on a l'impression que ce qui pourrait arriver à d'autres clubs plus banals finalement arrive au Real.
Ouais, alors après, Hervé parlait des exigences de Marseille. Le Real, historiquement, c'est le plus grand club du monde, mais c'est aussi le plus difficile, quoi. C'est le club le plus c'est une lessiveuse, c'est énorme de s'imposer.
Ils ont déjà eu s'imposer
au Real ou pas réussir au Real, ça peut arriver. Robben n'a pas réussi au Real. Robben est un joueur fantastique de l'histoire du football, un joueur marquant de ces 10 dernières années. Il a eu un passage à vide total à Higuain est un grand attaquant, pas un énorme attaquant, mais un grand attaquant.
Un très bon attaquant.
Il s'est quand même il a pas réussi au Real. Mourinho est sorti en lambeaux du Real et bon, après Mourinho, il aime bien se finir en lambeaux de partout. Voilà, mais c'est un club très très compliqué. Donc s'y imposer est merveilleux, ce que Karim Benzema fait depuis plusieurs années, je le dis tout le temps.
10 ans.
C'est incroyable.
10 ans.
C'est fantastique. Mais moi encore une fois, je peux pas leur en vouloir vu ce qu'ils ont réalisé. Sergio Ramos reste pour moi un des plus grands défenseurs de ces 10 dernières années. Le plus grand peut-être de ces dernières années. Voilà. Donc après, ils ont un petit passage à vide. Mais les conditions de la réussite sont là. Zidane est nommé avant que la saison reprenne, donc il est là, il peut retravailler. Hazard est déjà annoncé. Pogba est déjà annoncé.
On va y venir à tout ça.
Donc voilà, je pense qu'en plus, ils sont déjà sur les bons rails.
Hervé, est-ce que vous, ça vous a surpris de la part du Real de finalement de laisser filer une saison?
Non, ils l'ont pas laissé filer parce qu'ils n'auraient pas changé deux fois d'entraîneur, enfin donc trois entraîneurs différents. S'ils vraiment l'avaient laissé filer, il a essayé de réagir. Le problème c'est quand Lopetegui a été viré, c'est pas du tout qu'ils mettent. Ils ont mis Solari, ils ont fait un peu l'urgence et puis au départ ça a plutôt bien fonctionné parce que c'est souvent comme ça. Il y a un entraîneur qui arrive, c'est même pas un problème psychologique, c'est que certains joueurs en font un petit peu plus, ils disent bah peut-être que je vais avoir un peu plus ma chance et puis au bout d'un moment bah vous tombez dans votre travers. Et Zidane est arrivé et c'est là où c'est assez intéressant, c'est que Zidane n'était pas
parti en expliquant qu'il n'avait jamais trouvé les clés pour relancer son équipe en championnat.
Tout commence là.
Voilà.
La crise vient de là.
Exactement. Et c'est ce qu'il y a de plus dur. Moi, je pense que le championnat, surtout pour des équipes comme ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est pour
surtout
ça que
qu'on
Valverde
leur demande
fait un bon
de gagner tous les ans.
Et donc, il est revenu avec sa nouvelle équipe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il n'a pas pu la relancer non plus.
Non, il pouvait pas. Non, mais c'est la dernière saison de Zidane. De toute façon, il y avait une sorte de pacte avec Florentino Pérez. Est-ce qu'on recrute ou pas? Et finalement, Zidane a fait le tour du vestiaire. Il a dit non, finalement, on recrutera pas. J'ai confiance dans ce groupe-là. Quitte à passer à d'autres projets, d'autres ambitions à la fin de la saison. Ils ont quand même fini, ils ont quand même gagné la troisième Ligue des Champions d'affilée. Et ensuite, Zidane, qui avait bien vu que de toute façon tout était à remodeler, à rebâtir, parce que de toute façon
Cristiano Ronaldo passait. Ça lui donne parfaitement raison.
Ouais. Donc, fallait absolument rien attendre de cette fin de saison. D'abord, il arrive sur des décombres, ils se font éliminer par l'Ajax, ils perdent quand même à domicile. Mmh. Entre parenthèses, le rôle de leader de Ramos est symptomatique. Le gars qui joue pas le match retour parce que bon, il prend un carton jaune. Là, ouais. On touche vraiment le fond. C'est vraiment symptomatique de la crise morale. Oui, parfaitement.
Non, mais là, enfin, oui,
c'est Ramos,
un peu trop sur deux.
Il pensait qu'il s'était qualifié, quoi.
Oui, mais c'est symptomatique quand même que Ramos, quand s'appelle le taulier, tombe
aussi bas.
Voilà. Zidane ne pouvait pas de toute façon rétablir la situation. Ils sont en Ligue des Champions, ce qui n'était pas évident quand il était arrivé. Donc voilà, ils sont qualifiés. Et puis voilà, tu as annoncé les transferts, ouais. Qui apparemment dans chaque ligne, il va relancer aussi certains joueurs. A priori, il veut garder Marcelo. Kroos a re-signé quand même. Mm-hmm. Et puis quand même aussi. Dans le petit bilan, il y a aussi le petit Reguilón que j'ai trouvé pas trop mal avec Vinicius.
Eric.
Donc le bilan n'est pas trop.
On a un peu l'impression que, alors que la fin de cycle était quand même largement prévisible,
plus de deux ans.
Peut-être pas le départ de Zidane, mais en tout cas qu'elle était largement prévisible, que c'est Florentino Pérez a fonctionné en réaction, en gestion de crise permanente, et qui sont peut-être pas tellement dans la culture du club pour cette année, alors que là effectivement on est un peu dans l'anticipation avec une arrivée de Zidane avant la saison prochaine.
Ouais. Justement, Pierre, cette arrivée de Zidane, il est donc arrivé le 11 mars. Est-ce que c'était un bon choix selon vous ou selon ce qu'on dit à Madrid d'arriver avant la fin de la saison?
Oui, parce qu'il va préparer. Il y avait un premier objectif, c'était se qualifier pour la Ligue des Champions. Le deuxième objectif, c'était reconstruire.
Mais c'était troisième à peu près à ce moment-là.
Oui,
encore.
Mais avec la qualité du jeu, rien n'était acquis.
Ouais.
Mais après, il y avait l'autre objectif, c'est reconstruire totalement l'effectif. Et là, je continue de penser que Zidane est l'homme de la situation parce qu'il a compris qu'est-ce qu'était le club. Il est dans le club depuis 2001, donc il le connaît par cœur. De plus, côté Madrid, les supporters l'adorent. C'est une des personnalités madrilènes, et même je vous dis pas française, je vous dis madrilène. Le président l'adore, il lui fait totalement confiance pour ce mercato qui arrive. Et puis Zidane, il regrette pas du tout son choix. Hein. Il l'a dit la dimanche dernier qu'il était. Il devait en passer par là, qu'il devait passer par les mauvaises périodes. Il est dedans, mais on pense déjà à la saison d'après.
Alors justement, la saison d'après, il y a quelques jours, il s'exprimait sur la saison prochaine, et on sait que bon, alors toutes ces Champions qu'il a aidé à mettre dans l'armoire, il y a quand même un titre qu'il faut gagner, et c'est le titre de champion.
Il faut pas non plus penser et dire que c'est que la Champions et que le reste on s'en fiche, tout ça. Non, enfin, ça, l'objectif, comme chaque année, est de toute façon celui qui va être le premier objectif l'année prochaine, parce que c'est celui qui est le plus long de toute façon. Dans la durée, c'est la compétition la plus longue. Donc c'est celle-là qu'il faut pas louper, pour moi. Donc c'est ce que, de toute façon, je vais mettre dans la tête de mes joueurs, parce que c'est vraiment, c'est notre pain quotidien. Et ça sera la Liga, ça c'est sûr et certain.
La Liga, notre pain quotidien, premier objectif avant même l'Europe ou autre chose, Chérif?
Bah oui, il faut d'abord être, la règle numéro un chez les grands clubs, c'est d'abord être numéro un national.
Patron chez soi.
Voilà, c'est ça. Et en fait, ça complète parfaitement ce que j'avais envie de dire. La préparation physique, qui a été désastreuse l'été dernier. On l'a vu, le Real s'écrouler aussi bien en Ligue des Champions qu'en championnat. Et quand il parle de championnat, de compétition longue, ça veut dire qu'il va les remettre au boulot. Bon, on s'en connaît la culture italienne, la préparation physique d'avant-saison. C'est là que ça va commencer. À mon avis, peut-être même qu'il a peut-être écourté les vacances et que la préparation physique va commencer la semaine prochaine. Non, je plaisante.
Je crois que c'est un club qui est champion sur, deux fois sur les 10 dernières années.
Très peu gagné.
Donc là, ça devient un peu la folie là.
Voilà.
Et juste pour revenir sur le choix de Zidane par rapport à ce que Pierre disait, même si ça reste une forte abstraction totale de jouer au Real Madrid en soi, club légendaire, club mythique, ça augmente un peu plus la force d'attractivité d'avoir Zidane, être entraîné par Zidane. Il y a des joueurs au monde qui en rêvent parce que c'est l'un des plus grands du monde. Déjà,
sauf Gareth Bale.
Pardon ?
Sauf Gareth Bale. Apparemment.
Gareth Bale n'obéit à personne.
Bah, vous avez le droit de.
Il est peut-être pas le plus grand du monde.
Gareth Bale, il faut d'abord qu'il surveille son hygiène de vie.
Il a quand même donné une Ligue des Champions au Real Madrid.
Au XXe siècle.
Non, il est l'année dernière. Mais non, mais après, Gareth Bale, il faut d'abord qu'il surveille son hygiène de vie. Il est tout le temps blessé. Mais après, il dira ses préférences. Mais est-ce que moi, Gareth Bale, j'ai envie de le voir sur un terrain d'abord.
Pierre, c'est une histoire d'honneur aussi pour ce Real Madrid parce que là, ils sont à 19 points du vainqueur qu'est le Barça et c'est quand même une humiliation dans l'humiliation.
C'est un record de nombre de points entre... en tout cas avec la victoire à 3 points ça va pas du tout, ça va pas du tout de se faire dépasser par le Barça. Bon, ça devient presque une habitude puisque vous disiez qu'il y avait eu que 2 titres en 10 ans pour le Real, mais là vraiment se faire passer 2 années de suite par le Barça et par l'Atlético de Madrid, c'est sûr que c'est pas un sujet avec lequel on doit trop rigoler du côté de Bernabéu.
Ouais. Alors Eden Hazard est annoncé, on imagine que vu qu'il ne restera pas, c'est ça, hein?
Oui, ça sera. Non, la logique voudrait que ça soit annoncé après la finale de la Ligue Europa le 29.
Évidemment. Donc Eden Hazard est attendu du côté de Madrid.
Et puis d'autres Français. Bah, il est belge, mais il y a des Français.
Alors il y a une petite phrase qui, évidemment, alors Pierre, vous avez dû en entendre parler du côté de Madrid. Ici, on en parle beaucoup, peut-être trop, mais en tout cas, on en parle beaucoup. C'est la petite phrase de Kylian Mbappé. Je suis à un tournant de ma carrière, a-t-il dit en recevant le trophée de meilleur joueur de Ligue 1. Je veux plus de responsabilités. Ce sera peut-être au PSG avec grand plaisir ou ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet. Il y a un nouveau projet du côté de Madrid, Dominique, je ne me trompe pas. Dominique, d'abord, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous comprenez ou vous entendez par plus de responsabilités ? C'est tirer les pénaltys pendant les matchs ?
Je ne sais pas. Je pense que profondément, je ne sais pas ce que Kylian a voulu dire. Je peux vous donner les éléments.
Mais il a voulu dire quelque chose.
Je peux vous donner les éléments de langage de son camp. Je peux vous dire que son camp dit que il est pas content d'avoir joué à gauche la veille contre Dijon, qu'il est pas content de cette saison, de tous les dysfonctionnements qu'il a vus, des gens en retard, des gens qui sont pas professionnels, des gens qui se blessent. Lui, il a fait une saison de post-Coupe du Monde où, à part 2 suspensions de 3 matchs, donc 6 matchs plus la révocation d'un jaune, donc 7 matchs manqués, le reste du temps, il n'a jamais été blessé. Il a une hygiène de vie plutôt excellente. Il se couche tôt. Il est sorti à peu près 3-4 fois dans la saison. C'est beaucoup moins, beaucoup moins que d'autres qui sont beaucoup plus visibles dans la nuit parisienne que sur le terrain.
Oui, on les voit sur les
réseaux
sociaux.
Pas les mêmes infos quand même sur les sorties, mais bon.
Mais bon, voilà. En tout cas, il est jamais blessé. Et donc voilà, lui il trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, qu'il n'est pas aussi important qu'il le devrait vu qu'il est meilleur buteur. Il trouve que la place qu'on lui accorde elle n'est pas aussi importante dans l'équipe, dans le vestiaire. Il trouve que son salaire aussi est trop petit par rapport à celui de Neymar. Il demande pas le même mais qu'on réduise l'écart. Aujourd'hui c'est un écart de 1 à 2. Donc voilà, et profondément est-ce qu'il va rester
pas de 1 à 2.
Si, de 1 à 2.
C'est-à-dire... de 1 à 36.
Et c'est 18, c'est 18 brut et Neymar c'est 36 net. Donc c'est même plus que 20 à 2. Donc lui, il voudrait plutôt être dans 20-25 et laisser Neymar à 36. Et vous dire s'il va rester ou pas, j'en sais rien du tout. Jusqu'au 31 août, on va surveiller ça. Son clan encore dit qu'il veut rester. Moi, je ne crois que ce que je vois, j'attendrai le 1er septembre.
Ça, il a tout à fait raison, mais je pense que le Paris Saint-Germain est le seul club qui est capable de garder un joueur. Alors j'ai un petit bémol à la réflexion sur Kylian Mbappé. C'est que faire un bras de fer avec Kylian Mbappé en France, c'est peut-être compliqué. Parce que c'est une star absolue. C'est un ouragan, Kylian Mbappé en France, auprès des jeunes, toute la jeunesse. Et vous, Qatar, vous prenez un club un peu pour l'exposition. Et si vous commencez à faire un bras de fer avec la star française, bah, ça peut être mal perçu. Donc c'est vrai qu'il a cet atout dans la poche. Sinon, le Qatar, il bloque tout le monde et il n'y a aucun souci, ça ne posera aucun problème. Moi, j'ai l'impression que son histoire de responsabilité, bon, moi, c'est comme ça que je le lis, hein, et bon, je connais un petit peu. Hein, sur ce plan-là, un plan qui est définitif, c'est que lui, il veut jouer attaquant de pointe au Paris Saint-Germain. On ne parle même plus d'autre chose. Il a raté le
record.
Mais c'est que ça.
Je veux passer de la gauche.
Exactement. Ce qui veut dire, en gros, maintenant, Cavani, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez le garder, vous le gardez. Si vous voulez le vendre, vous le vendez. Mais à un moment, si je suis un grand joueur, si je suis le grand joueur du PSG, celui dont vous espérez être peut-être le futur, la future plus grande star du football mondial, et l'avoir dans votre club, c'est moi. Et ben, il y a une seule chose que je demande, c'est de jouer attaquant de pointe.
Je suis champion du monde et je tutoie Pelé. C'est la nouvelle dimension. Même il a grandi psychologiquement et c'est normal. Choper la grosse tête.
Un peu la grosse tête.
Oui, un petit peu, mais
c'est. C'est mesuré. Peut-être.
Mais il a toujours été comme ça, mais c'est justifié. Non, mais le truc c'est que c'est justifié.
C'est son énergie.
Voilà, mais c'est comme disait Hervé, c'est un ouragan. C'est vraiment, c'est la pépite. Il impose ses conditions. Il y en a que ça choque et tout parce qu'on n'est pas habitué à ce que des jeunes de la sorte. Non, sauf qu'il est champion du monde. Et en plus, lui, comment dirais-je, dans sa progression naturelle, quand on voit le parcours depuis Monaco, se retrouver maintenant à côté gauche et tout avec un Cavani qui se blesse de plus en plus souvent. C'est ça un peu les sous-entendus. Mm-hmm. Neymar blessé, Cavani blessé. Ok, je fais partie du trio.
Mais je veux qu'on reconnaisse que
j'ai pris. Il joue côté gauche contre Dijon, sinon toute la saison il a joué axial. Hein.
Ah mais oui, mais il suffit d'un match pour lui. Hein. Oui. Rappelez-vous qu'il veut à Jardim parce qu'il l'a pas fait jouer à Tottenham.
Ouais. Bien sûr. Donc, mais comme disait Hervé, toute sa carrière montre qu'il a toujours agi comme ça. Hein.
Oui, oui, bah
quand
voilà.
Ça n'allait pas, il a pu plomber un entraîneur à Monaco, Bruno Herles. Il a toujours, quand il jouait pas à Monaco, son père est intervenu dans l'équipe pour dire bon ben nous on va partir puisque notre fils ne joue pas, c'est Germain et Falcao. Mm-hmm. Donc, il a toujours, comme ça, lui ou son clan, agi par des coups de boutoir, parce qu'ils savent qu'il est sans limite. Ils savent qu'on est, sans doute, avec l'un des plus grands joueurs de l'histoire du foot.
Donc, on est d'accord.
Donc, il y a clairement des intentions. C'est dans la capacité qu'il a, justement, avec son entourage, à maîtriser sa communication. On l'a bien vu à son arrivée au Paris Saint-Germain. C'est vraiment prémédité. Il y a vraiment un objectif.
Je suis pas sûr que ce soit contre par rapport à ce qu'a dit Hervé. Moi, je pense que c'est pour plus de place.
Oui, mais
est-ce que c'est
fait,
contre Neymar, contre Cavani?
Non, j'ai pas parlé de Neymar.
Oui, mais certains disent que c'est contre Neymar. Toi, tu dis contre Cavani. Moi, je sais pas si c'est contre.
Quand je parle de contre Cavani, c'est pas ça. L'idée, c'est pas dire je déteste Cavani. C'est dire c'est moi qui suis dans l'axe. De fait, malheureusement pour Cavani, si on lui dit t'es sur le banc ou tu retrouves un côté, il sera compliqué. Juste un petit exemple. Aujourd'hui, j'étais dans une journée sur les enfants malades. Il est venu, Kylian Mbappé. Mais je peux vous dire.
Vous lui avez posé la question, là?
Ah non, mais je l'ai même pas vu. Moi, j'étais sur mon pauvre stand.
Il y avait trop d'enfants.
Je m'occupais des activités sur le stand où j'étais. Et c'est une star comme c'est pas imaginable.
Ah oui, chez les enfants.
J'ai vu des centaines de gens avec des maillots du Paris Saint-Germain. C'est un truc phénoménal.
Pierre Chaperon, vous du côté de l'Espagne, dites-nous comment ça a été perçu et qu'est-ce qu'on dit du côté de Madrid? Est-ce qu'on l'attend? On a entendu un des éditorialistes d'un programme de télévision chanter l'autre jour « Nuestro Kylian ». Donc, il vous appartient déjà?
Ça c'est pas encore fait, c'est pas signé. C'est tombé le dimanche à 23h. Tous les shows d'information sportive sont à partir de 23h, 23h30. En gros, la déclaration de Kylian Mbappé a mis en feu les sites internet espagnols de sport, Marca, AS, même le Mundo Deportivo qui est le quotidien catalan en a parlé. C'est quelque chose dont on parle énormément. Mbappé, c'est un rêve en Espagne. Si vous allez cet été en Espagne, que vous prenez le soleil, ce que je vous espère à tous, que vous dites que vous êtes français, on vous parlera tout de suite de Kylian Mbappé.
Est-ce que l'hôtel sera gratuit? Parce que moi, ça m'intéresse.
Je peux vous avoir des prix.
Et je peux vous dire que j'étais en Tanzanie il y a peu de temps, quand je suis rentré dans un endroit pour manger un petit truc, et il y avait deux, trois filles qui étaient au comptoir, et première chose, vous êtes français, oui, Kylian Mbappé. Voilà.
Ouais,
avance les zizous.
Voilà, c'est le même phénomène que Zidane dans les années 90-2000.
Mais alors Pierre, il y a une chose, c'est qu'il devait y avoir un jeune recruté là, et on a l'impression que le Real prend plus de temps pour Luka Jovic.
Voilà, Luka Jovic de l'Eintracht Francfort. Il devait arriver là dans les prochaines semaines. On l'annonçait même présenté après Eden Hazard. Hier, une information d'une chaîne qui est très très bien informée sur ce qui se passe au Real Madrid disait que la piste, alors qu'elle était très très bien partie, allait être abandonnée.
Et les deux.
Est-ce que Pardon.
Non, il était question aussi d'un défenseur brésilien, Alex Telles, qui joue à Porto.
Un défenseur. Alors, ouais, mais comme il y a Militao, comme Militao va arriver, ça c'est fait, c'est officiel. Comme Marcelo va rester, on ne sait pas si Reguilón va être prêté cette saison, enfin la prochaine saison, ou si Ferland Mendy va venir. Donc pour l'instant,
il faut garder des sous quand même pour faire Kylian Mbappé, Pierre, hein, parce que sans pour hasard, sans pour Pogba.
Il y a entre 500 et 600 euros, 600 millions, pardon.
Mais parce que 500 euros, ça suffira pas. Hein.
Non, ça, c'est mon budget appartement.
Mais là, Kylian veut bien venir chez vous.
Mais il paraît qu'il est d'ailleurs.
Je l'accueille avec grand plaisir. Mais non, bien évidemment, Mbappé, ça sera entre 280. C'est les chiffres qui tournent en ce moment. 280.
Payable en une fois. Combien 280 combien
300.
Oui.
C'est les chiffres qui sont pour le moment qui circulent. Maintenant,
plus sans hasard, on sait, plus sans on sait que
Pogba c'est pas fait. On sait que les relations avec l'agent de Pogba et le Real Madrid sont très compliquées. Pogba, s'il venait, il demanderait un salaire assez important.
Non.
Est-ce que ça va être accepté par le Real, qui est très, qui fait très attention à l'équilibre d'un vestiaire.
Pierre, vous étiez agréable jusqu'à maintenant. Là, vous parlez d'argent, je trouve un petit peu vulgaire. Hein. C'est pas le genre dans le football de parler d'argent comme ça.
Je vous explique. Mais non, mais c'est pas fait pour Pogba. Et on sait que à son poste, il y a d'autres listes. En plus, Kroos a été renouvelé. Modric va peut-être rester. Donc,
il y a un petit joueur libre au Paris Saint-Germain qui coûte rien, qui est pas mal.
Rabiot, ça a été étudié, mais apparemment la prime à la signature serait légèrement élevée,
un peu trop élevée selon le Real Madrid.
Donc Pierre, ça veut dire que là-bas ça a eu un effet énorme et que vous avez l'impression qu'on est un peu dans l'attente de ce qui pourrait se passer en Espagne.
Il y a eu un sondage auprès des socios, et je crois que c'est 80% des socios du Real attendent Kylian Mbappé. C'est énorme, 80%. Sondage.
Oui, parce que le Real veut une star. Le Real veut qu'un joueur remplace Cristiano Ronaldo. La piste Neymar, c'est le choix du président, mais maintenant on en parle moins.
Ah oui, ça n'en parle
plus du tout.
Il
faudra pas tout mettre dans l'appartement, faut en garder un peu pour la ligne.
Il y a une petite coupure, Pierre. Pierre, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous et nous donner ces dernières infos. Et surtout, si vous en avez une, vous nous appelez, qu'on soit en direct ou pas. Hein.
Allô, allô.
Ouais, Pierre.
Alors, il n'entend plus, comme par hasard.
Il n'entend plus. Bon. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été en direct avec nous.
Bientôt.
À bientôt. Finalement, il reste. Asamoah Gyan aura laissé planer un court suspense sur sa participation à la prochaine CAN, celle qui commence en Égypte dans un mois à peine. Le grand capitaine des Black Stars avait annoncé sa retraite internationale après avoir appris que son sélectionneur ne lui confierait pas le brassard de capitaine. Asamoah Gyan, d'abord pour le situer, Eric Chorin, c'est un joueur, on se souvient de lui. Je crois qu'on est à peu près tous unanimes autour de cette table, c'est 2010, un certain match Ghana-Uruguay en quart de finale de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, mais il est passé aussi par quelques clubs.
Asamoah Gyan, il est moins connu que d'autres stars du football africain, Didier Drogba, Samuel Eto'o, Yaya Touré, pour ne citer que, notamment parce qu'il a une carrière en club somme toute assez médiocre, enfin il n'a pas passé par des grands clubs, Rennes, Sunderland, il a marqué beaucoup de buts aussi aux Émirats Arabes Unis, mais sinon il n'a pas eu une très grosse carrière en club, mais sinon c'est l'homme aux 51 buts en 106 sélections pour le Ghana. C'est deux records pour le football ghanéen, de nombre de sélections et de buts. Puis effectivement, il a aussi, c'est l'homme aussi qui a marqué 6 buts en 3 Coupes du Monde. C'est le record africain en 2006, 2010 et 2014. La plus marquante, c'est évidemment celle de 2010 avec ce quart de finale face aux Uruguayens et Luis Suarez qui joue aussi avec la main, paraît-il. Donc, et ce pénalty qu'il n'a pas transformé, qui aurait permis aux Ghanéens d'aller en demi-finale, éventuellement
avant de cette Coupe du Monde. Ils étaient déjà en huitième de finale de la Coupe du Monde 2006, éliminés en quart par le Brésil après une première mi-temps où ils avaient bien tenu le choc. Et puis, bah, ça a été un peu moins concluant lors de la Coupe du Monde 2014. Et puis, c'est aussi, eh bah, six demi-finales de CAN consécutives, hein, le Ghana ces dernières années, avec notamment Asamoah Gyan, finaliste en 2010 face à l'Égypte, malheureux, et finaliste malheureux encore en 2015 face à la Côte d'Ivoire. Hervé, nous y étions. Des difficultés avec cette équipe, mais c'est aussi une figure un peu tutélaire de cette équipe, avec un André Ayew qui a toujours poussé un petit peu derrière, mais sans jamais vraiment prendre totalement la place. Et là, cette fois-ci, apparemment, c'est à André Ayew qu'on est censé accorder le capitanat, et au détriment d'Asamoah Gyan. Il n'a que 33 ans, il ne joue quasiment plus en club, dans il n'a pas club, été titulaire exactement. Une seule fois dans son club en Turquie, et il est très régulièrement blessé, mais il s'est quand même vexé.
Il a participé au début des éliminatoires.
Il s'est vexé et finalement, à l'appel du président de la République du Ghana, il a décidé, il a écrit une belle lettre en disant bon ben ok, je reviens sur cela. Est-ce qu'il est un peu trop susceptible selon vous, Hervé?
Ah bah, vous savez que le problème de capitana dans ce type d'équipe, c'est très très compliqué, et donc lui ne plus l'avoir.
Ce type d'équipe, c'est-à-dire en Afrique ou au Ghana?
Ghana particulièrement, en Afrique.
En général,
très souvent, ça posait problème. Mais, attention, on peut étendre ça. Je pense que c'était pareil en équipe de France.
Oui, c'est vrai.
Exactement. Donc, non. Le capitana, c'est quelque chose de très particulier. Mais c'est vrai que pour lui, il avait l'impression de l'avoir à vie, d'une certaine manière. C'était un peu l'histoire Rigobert Song au Cameroun. Et puis, à un moment, quand on vous dit, c'est peut-être un peu là, il va falloir s'arrêter, là. Il va falloir trouver un souffle nouveau. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est un peu sur les talons, hein. C'était un immense joueur. Attention, sa carrière en club correspond pas à ce qu'il était véritablement. Un joueur magnifique, techniquement, de la tête, absolument incroyable, capable de prendre l'avantage sur des défenseurs.
Avec son club principal, c'était la sélection du Ghana.
Oui, et puis il a fait des choix aussi de carrière parce qu'il avait besoin un peu d'argent à un moment, parce que lui, il avait été très très peu payé au début de sa carrière, et donc à un moment, il a fallu aussi qu'il fasse fructifier tout ce talent-là. Mais ce qui est bizarre avec lui, c'est que lors de tous les derniers matchs que j'ai vus avec le Ghana, on croit toujours que bon, c'est la fin des haricots, et il arrive toujours à sortir son épingle du jeu lors de la dernière CAN. On a senti qu'encore c'était un des joueurs clés de cette équipe du Ghana. Mais enfin bon, on a imaginé quand même que soit le président de la République qui soit obligé d'envoyer un message pour demander à Gyan de réintégrer le groupe, et puis de faire une sorte de grand, alors c'est pas de capitaine, c'est-à-dire de grand frère, de supra-intendant, de supra-capitaine.
Le président qui a quand même convoqué le coach pour en parler, lui demander les raisons de ce retrait, et ensuite joindre
si vous voulez un résumé, mais Asamoah Gyan, c'est Roger Mia. Quand Roger Mia, pour les débuts des Coupes du Monde 90, 94, etc. C'est-à-dire que c'est un personnage, on va dire, bigger than life, comme dans les Américains. C'est autre chose. Il est plus que simplement un joueur de football, même si on se souvient de moments terribles qu'il avait vécu. 2008 à la CAN.
Oui.
Le peuple n'en voulait plus. C'était incroyable. Il avait failli partir de l'équipe. Claude Leroy avait fait, des pieds et des mains pour le conserver. C'était un truc incroyable. Donc il a toujours vécu des périodes un peu étranges avec son pays et sa sélection.
Oui, la première remarque, là, je m'adresse à Hervé. Je sais pas si tu te souviens, tu sais, de l'épisode où il avait payé lui-même, tu sais, les frais d'avion, là, d'un match. Ils étaient allés jouer contre le Congo à Brazzaville, il me semble, et c'est lui qui avait payé ça tout. Donc il y a une vraie implication aussi.
Mais comme tous les grands frères, d'autres l'ont fait.
Et à côté de ça, dans les sélections africaines, on l'a vu notamment quand Côte d'Ivoire a gagné la CAN, ils l'ont gagné sans Drogba. C'est à partir d'un moment, c'est les joueurs emblématiques, les grands frères, tout ce qu'on appelle les joueurs vraiment emblématiques, capitaines. Il y a au bout d'un moment. On a vu ça avec la crise à Eketo, mais à Eketo, ça a duré des années, parce qu'au bout d'un moment, fallait laisser la place. Donc, voilà. Après, qui on est pour juger la sélection ghanéenne, est-ce qu'il a encore sa place ou pas, et tout.
Mais en revanche, ça va poser des problèmes. J'en suis convaincu.
Au pays.
Oui. Dans l'équipe. Évidemment. Quelqu'un qui dit, je veux pas venir parce que je suis pas capitaine. Ouais. Et ben, d'un seul coup, quand il revient, même André Ayew, qui était prévu capitaine, qui sera logiquement capitaine, Je pense quand même qu'il revient.
Et s'il nous fait une Roger Milla?
Mais je me souviens quand même de la CAN 2015. Asamoah Gyan est blessé au début, il joue pas le premier match. Il va aussi être mis sur le banc en demi-finale pour être ménagé. Il joue les autres matchs à bloc. Mais je me souviens qu'on avait du mal quand on en parlait avec André Ayew. André Ayew ne voulait pas prendre le leadership, en tout cas par la parole, par rapport à Asamoah Gyan.
Il pouvait pas trop se le permettre. Oui, c'était compliqué.
Mais le verre est dans le fruit. Moi, je peux vous dire, j'ai vécu ça en équipe de France avec Thierry Henry, qui était capitaine, qui a été déclassé, qui est quand même allé à la Coupe du Monde 2010, dont vous parliez, avec le Ghana, Uruguay, et on a nommé Patrice Evra entre temps. Dans le bus, il a dit, écoute,
écoutez, moi je suis plus rien, mais il y a eu la main, vous m'avez enlevé le capitanat, tout ça, vous débrouillez-vous, faites comme vous voulez, moi je ne suis plus là. Et pourtant il était quand même là. Donc tout ça crée des problèmes à plusieurs allons de permanente.
Ouais, ça crée des problèmes et ça a des conséquences surtout. C'est déjà la fin de ce Radio Foot International.
Merci à tous.
À David Finzel et David Brocco et à demain.
C'était Radio Foot International avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine.